18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 10 juin et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale et citoyenne de Radio U sur le 101.1 FM. Ce soir, en deuxième partie d'émission, vous pourrez retrouver l'interview de Gabriel Toulek, professeur de philosophie au lycée Saint-Sébastien de Landerneau, accompagné de trois de ses élèves de la spécialité Humanité, Littérature et Philosophie, Margot, Chloé et Marie, qu'on a pu joindre par téléphone hier dans l'après-midi pour parler de leur lauréat régional pour leur BD sur la biographie de Gillette Kolinka, présentée lors du concours Bulle de mémoire. Mais avant cela, nous allons discuter de la troisième édition du défi Éloquence, proposé par le Théâtre du Grain, qui permet à deux jeunes Brestois, de s'exprimer sur scène dans un mélange de théâtre et d'arts martiaux. Et pour parler de ce beau projet, nous recevons Ida Ertu. Bonsoir.
Bonsoir.
Tu es metteuse en scène pour ce projet?
Oui, tout à fait, oui.
Et nous recevons également deux participants de ce dispositif. Bonsoir, Gwendal Lalancette et Diane Palier.
Bonsoir.
Bonsoir.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le but du défi Éloquence?
Le but, alors oui, d'abord donc, c'est important de redire qu'on est à la troisième édition, donc ça veut dire qu'il y a déjà eu deux éditions qui ont été faites, auxquelles moi je n'ai pas participé, mais dont j'ai été spectatrice pour la deuxième en tout cas. Donc c'est, au départ c'est une commande de la mairie pour les quartiers et de faire un défi éloquence. Donc nous on a accepté le projet, enfin le Théâtre du Grain a accepté le projet, en disant on va pas faire un concours d'éloquence parce que ça nous intéresse pas. On va mettre ensemble, on va créer un groupe de jeunes gens et qui vont exercer sur le plateau leur capacité déjà à être ensemble, à vivre quelque chose ensemble, et à l'intérieur de ça fera partie très certainement l'éloquence, la capacité à dire et à parler. Voilà, c'est ça en fait la base du projet. Et ça a évolué. Et pour la troisième édition, je cherchais la possibilité d'inclure, ou en tout cas de mettre en œuvre aussi, tout un travail sur le mouvement et sur le corps, parce que je me disais que ce corps, quand même, qui avait été bien malmené avec le Covid, avec l'enfermement, avec les masques, avec tout ça, il fallait travailler sur ces corps et sur tous les corps entre 16 et 25 ans, on ne sait pas forcément très bien qui il est, quel est ce corps. Donc voilà. Et je cherchais avec qui travailler dans ce sens-là. Et je voulais éviter la danse. Je voulais éviter la danse en tant que vraiment art chorégraphié. Et puis voilà, au fur et à mesure de mes recherches, on m'a présenté Tanguy Le Vourche, donc un akidomane, mais peut-être déjà un peu vite, non? C'est pas le cas. Et on s'est rencontrés, on a parlé du projet, on s'est vraiment très très bien entendu sur les objectifs, et on travaille ensemble donc depuis le début de ce projet, qui, je dois quand même le souligner, a été un peu malmené, encore une fois, à cause du Covid. C'est-à-dire qu'il a été arrêté, il a été repris, il a été à nouveau arrêté, il a été déplacé. Enfin, ça a été une organisation énorme. Mais on y est arrivé et on a réussi à maintenir un groupe de 11. Ils étaient 13, en fait, au départ. Il y en a qui n'ont pas pu suivre à cause, parce qu'ils sont rentrés en apprentissage ou ils ont trouvé du travail ou il y a eu des événements comme cela. Et là, actuellement, on est 10. C'est un groupe de 10 personnes et chacun d'eux va en même temps pour eux-mêmes dans leur intimité pour pouvoir éprouver leur éloquence, mais aussi collectivement. Et je crois que c'est ça surtout qui les rassemble d'ailleurs, eux. Et c'est la capacité, la possibilité et la capacité qu'ils ont vraiment tous à faire groupe, parce que ça a été étonnant, mais dès le départ. Et de vivre cette aventure-là, quoi, ensemble, et voir ce que ça donne. Ils vont... Je ne sais pas si je vous dis tout de suite quand est-ce qu'on joue. Si ? Non ? Plus tard ?
Vous pouvez, moi je compte en parler à la fin.
Ouais, bon. Bah, le 19 juin, à l'auditorium des Capucins, mais on le rappellera tout à l'heure.
Oui.
Et le 2 juillet, au centre Horizon, à Pontanézen, au centre social Horizon. Est-ce que je vous parle un peu des partenaires de ce projet?
Oui.
Ou vous avez des questions là-dessus plus tard?
Je voulais, comme je vous l'avais dit hors antenne, moi ce qui m'intéressait beaucoup, c'est justement la prévention Don Bosco, l'AMBE Europe.
Oui. Et tout à fait, qui a été très présente.
Ouais, justement, j'aurais bien aimé savoir quelle était l'implication dans ce projet.
Alors, effectivement, ça fait partie des partenaires essentiels de ce projet. Je vais quand même tous les nommer, puis après je parlerai plus particulièrement de Don Bosco. Donc, il y a la prévention de Don Bosco, Quartier Europe, l'AMBE, ZELEC. Il y a le Centre Horizon, Léo Lagrange, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a eu la Maison du Théâtre aussi, dans laquelle on a pu faire une semaine entière de travail. Ça a été très important. Il faut que je nomme aussi le soutien de la DRAC Bretagne, pas les politiques territoriales. La ville de Brest, bien évidemment. Le Crous, Peps Crous Bretagne, oui, j'ai du mal à me revenir tous les trucs, et le conseil départemental, voilà. Donc pour revenir à Don Bosco, on continue à travailler avec Sylvie Bodenès, donc qui fait partie de Don Bosco, mais plus précisément du quartier Europe l'AMBE. Ils sont sur le terrain en fait. Ils sont sur le terrain. Ils sont à la rencontre des jeunes dans la rue. Dans la rue, c'est vraiment des éducateurs de rue et qui rencontrent les jeunes gens, jeunes filles qui peuvent être parfois en déshérence, parfois ne pas savoir quoi faire de leur vie au moment où ils les rencontrent, sans projet ou sans dispositif particulier ou en attente de quelque chose, enfin voilà. Et ils leur proposent des projets comme cela, comme Défi Éloquence, et ils rassemblent en fait, ce sont des rassembleurs, et puis ils suivent surtout, ils sont là tout le temps, ils les appellent, ils sont en contact avec eux sans cesse, ils organisent, ils vont chercher les jeunes, ils les emmènent sur les lieux de répétition, enfin, c'est vraiment une coordination extrêmement importante, fondamentale. Et Sylvie est vraiment une partenaire exceptionnelle à ce niveau-là.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu du profil justement de ces jeunes qu'on accueille aujourd'hui ?
Ouais, moi je veux bien en parler, mais je crois qu'ils sont encore mieux placés pour en parler. Donc je vais leur laisser la parole. On va commencer par Diane, peut-être, qui connaît bien le quartier de Ponta.
Ben souvent, c'est quand on a des difficultés, par exemple, pour trouver un emploi ou même des formations. Effectivement, comme Ida le disait, il y a une sorte de déshérence chez les jeunes. J'ai l'impression, une partie en tout cas, dans le quartier dont je fais partie, donc le quartier de Pontanézène. Après, pour les autres quartiers, je peux pas trop parler, mais c'est un peu la même chose en général. Et on sait pas trop quoi faire, on a besoin de sortir, de se sociabiliser, on n'a pas les moyens pour accéder à certaines activités, et du coup ce projet ça permet justement d'avoir accès à une activité qui nous permet de nous exprimer et de développer toutes sortes de capacités comme l'art oratoire ou le corporel, voilà.
Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, Gwendal?
Oui, moi je viens plus. J'ai plus le profil du jeune type du même âge que les copains de Ponta et des quartiers de Brest. Sauf que moi je viens plus de la banlieue pavillonnaire, qui est super. Alors on a aussi nos soucis de construction et de recherche de sens, on cherche tous du boulot, il faut gagner son pain et puis tout ça, et puis on tombe sur des gens comme ça, on tombe sur une annonce en se baladant dans un truc et puis on dit pourquoi pas, et puis on y va et puis on y arrive et c'est marrant et puis c'est super, on rencontre plein de gens, c'est génial, c'est la fête. Voilà. J'ai pas grand chose à dire d'autre.
Mais c'est important ce que dit Diane, effectivement il y a une on s'adresse à des jeunes qui sont très souvent invisibilisés. Enfin, c'est voilà, ils n'existent pas en fait. Enfin, si je veux aller vite, hein, parce qu'il faudra développer, bien évidemment. Mais oui, il y a ça, il y a ce côté-là qui est très important où ils sont en attente, en même temps assez repliés sur eux-mêmes, en attente de quelque chose. Ils savent pas forcément quoi. parce que c'est des âges où on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire de sa vie, quoi. Enfin, et il y a des injonctions, on les connaît, hein. Il faut travailler, il faut savoir quoi faire de sa vie, il faut faire absolument quelque chose, parce que si tu fais pas quelque chose, ben t'existes pas socialement. Enfin, c'est tout ça, c'est toute cette pesanteur là aussi qu'on essaye un peu de lever dans des projets comme cela. Donc c'est un temps un peu privilégié comme ça, un espace, un temps où on respire un peu par rapport à toutes ces injonctions et cette dureté là, cette violence même parfois, et on peut s'engager autrement, on peut se trouver autrement, se rencontrer autrement et se parler et dans un échange, et ça c'est vraiment fondamentalement c'est ce qui fait la nourriture, enfin c'est ce qui fait la matière aussi de ce type de projet. Et comme effectivement, comme le dit Diane, on s'adresse à l'art oratoire mais pas seulement, ben ça tombe bien parce qu'il s'agit de se parler et de parler.
Mais c'est vrai que, juste si je peux ajouter quelque chose, je pense que dans ce genre de projet il y a vraiment l'idée de se trouver aussi. Et ça, je trouve ça super bien qu'on puisse avoir des endroits comme ça où juste on nous pousse à travailler ce qu'on est nous. C'est-à-dire que chacun a raconté des textes, a écrit des textes qui sont tous très forts et pour la plupart très personnels. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a une histoire de se renforcer justement en comprenant mieux ses faiblesses et en pouvant les faire sortir. Et je pense que ça, c'est un truc, on est tous sortis bien plus forts qu'on est rentrés à cette sortie, quoi.
C'est pas fini.
Et puis il y a ce truc aussi, justement, pour par rapport à ce que tu disais, Ida, du truc où on peut s'élever un petit peu de toutes les problématiques qu'on nous pose dans les centres de formation, des machins. C'est que quand on rentre dans une salle de théâtre ou une salle de spectacle en général, il y a toujours cette sensation d'être dans un espèce de vaisseau spatial où le temps a plus vraiment d'impact, où il y a plus grand chose qui a d'impact sur le truc. Le moment, tout est toujours très privilégié dans les champs, dans les trucs où il y a du noir là et puis des lumières. C'est super, quoi.
Alors tout à l'heure, toi, Ida, tu parlais de la maison du théâtre où vous avez passé une semaine qui était extrêmement importante.
Ouais.
Et avant de parler justement de ce choix de faire coexister le théâtre avec l'aïkido, en quoi elle a été importante cette semaine à la maison du théâtre?
Bah, elle a été importante parce qu'elle a fédéré après bien des difficultés d'organisation et de logistique, puisque au départ on était parti sur des ateliers qui avaient lieu le jeudi soir. Donc ça a été terminé à cause du couvre-feu. Ensuite il y avait le Covid, on pouvait pas se rassembler à cet âge-là, en tout cas. Il y avait toutes les normes et les contraintes sanitaires. Donc ça reportait. On ne savait plus comment, par quel bout le prendre en fait ce projet. Et il y a eu cette proposition de la maison du théâtre qui a été vraiment fondatrice, parce que il nous donnait la possibilité, en fait, sous la forme d'un stage de formation professionnelle continue, qui était tout à fait légitime, enfin par rapport au public entre guillemets auquel on s'adressait. J'aime pas le mot public pour parler des jeunes gens. Et donc on a pu comme ça pendant une semaine se plonger complètement dans le travail toute la journée dans cet espace du studio de la maison du théâtre, en étant très très bien accueillis, un peu préservés comme ça de l'extérieur, et donc on a pu avancer assez vite dans le travail, en fait. En une semaine, on a fait un boulot de fou. Je sais même pas si on a réussi à le faire avec toutes les jeudis qui étaient programmés au départ. Ce qui veut pas dire qu'il reste pas du travail. Là, on est reparti, on a fait un week-end encore de travail le week-end dernier. On en refait un ce week-end avant de présenter le spectacle.
Et justement, je crois que cette semaine-là, vous avez posé les bases du coup de votre travail, et vous leur avez expliqué un peu les bases justement du théâtre et de l'aïkido avec Tanguy
Le Bourche. Oui. Oui, alors oui, ils l'avaient rencontré avant, ils avaient eu le droit à quelques heures de travail dans le dojo de Tanguy. Mais oui, là, c'est vraiment là, véritablement, qu'on a pu faire cette rencontre, en fait, entre ce que pouvait leur apporter le travail de l'aïkido dans le mouvement, parce que c'était vraiment ça, cette capacité à percevoir l'intimité d'un mouvement et en même temps à le rendre collectif et s'adresser au groupe. Et puis moi, j'arrêtais pas de leur dire que les mots et le langage, c'est la même chose, en fait. Et là, il y a eu une combinaison, vraiment, une rencontre entre ce travail de l'aïkido, qui n'était pas, il faisait pas de l'aïkido. C'est-à-dire, c'était pas l'art martial en soi, mais c'était les bases de l'aïkido et tout le matériel, enfin, le matériau, les outils de l'aïkido qui rencontraient les outils du théâtre, quoi, en fait. Et c'était vraiment, enfin, le week-end dernier, on a encore beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Et ils ont énormément progressé, énormément, en très peu de temps en fait.
Et quel lien vous faites entre un art martial comme l'aïkido et l'art du théâtre ?
Bah, moi je pense qu'il y a quelque chose qui, évidemment, ça paraît même presque bateau de le dire, mais quand même, il faut le dire, ce sont des arts de discipline. C'est-à-dire qu'il y a une discipline et une exigence très forte qui est nécessaire à la base, et ils vont le dire eux-mêmes, parce que je pense qu'ils vont mieux en parler que moi, mais tous ont adhéré à cette discipline. Et d'une certaine manière, je pense que tous la recherchaient, et avaient besoin aussi de cette construction-là, pour arriver à ce que dit Gwendal tout à l'heure, c'est-à-dire se rencontrer, se percevoir soi-même, hors de toute la contagion, enfin la contagion, le mot est fort, mais presque, cette pression dont on parlait tout à l'heure, qui est une pression sociale et qui vient de l'extérieur et qui n'est pas forcément adéquate à ce qu'on est à cet âge-là, à ce moment-là, de la vie. Enfin, voilà. Là, il y avait cette construction, en fait, par cette discipline de l'art martial qui est très forte et qui demande une précision, un investissement, une exigence. Et l'art théâtral est également extrêmement exigeant. C'est-à-dire, effectivement, prendre la parole sur un plateau devant des gens, c'est une action qui demande de la précision, de l'exigence et du travail. Ça ne peut pas se faire comme ça. Donc là, on s'est rencontrés là, vraiment.
Moi, je voudrais vous redonner la parole à tous les deux, Gwendal et Diane. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le défi d'éloquence pour que vous y finissiez comme ça? Qu'est-ce qui vous a attiré à ce point
pour y aller, pour s'inscrire,
ouais, pour finir par en faire partie?
Moi très 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 personnellement, c'est ça fait très longtemps que je voulais faire du spectacle en général, c'est-à-dire que j'ai quelques souvenirs, les fameuses pièces de théâtre de quand on est en primaire, et j'ai le souvenir d'arriver et puis de faire une blague et tout le monde rigole, et puis d'un truc qu'on avait tous construit ensemble et qui était super, et ça m'avait beaucoup marqué. Après, j'ai fait aussi un peu de musique, et ah ouais, encore. Et c'était aussi le fait de enfin pouvoir oser parler devant des gens. Et pouvoir raconter des histoires et inviter les gens avec soi. Et ça, je trouve que c'était super. Et c'est pour ça, alors c'est vrai que c'est ce que je racontais aux collègues l'autre jour, c'est que j'ai mis du temps et que le fait qu'il ait été décalé à cause du Covid plusieurs fois, moi, ça m'a plutôt aidé, parce que le premier coup, j'avais dit non, finalement je le fais pas, j'abandonne. Et puis après, je me dis bon, bah peut-être, et puis après j'abandonne, et puis après non, enfin voilà. Et au final, je l'ai fait. Et au final, je regrette pas. Et je me doutais bien que j'allais pas regretter. Enfin voilà quoi. Enfin, du coup, c'était le fait de de parler.
et toi, Diane?
Je savais pas trop dans quoi je me lançais. Et je suis arrivée, on m'a prévenue 2 jours avant la première séance. Donc moi, je suis arrivée comme ça. Je savais qu'il y avait un peu de théâtre. Surtout, j'avais vu vite fait aïkido, mais voilà, je savais pas trop dans quoi je me lançais. Et après le théâtre, moi ça m'a toujours passionné, ça m'a toujours mis des étoiles dans les yeux en fait. Du coup, je me suis dit bah c'est l'occasion d'y avoir accès par rapport à ce que je disais tout à l'heure, des moyens, tout ça qu'on n'a pas forcément. Là, c'est l'occasion d'y aller. Et finalement, bah je suis restée parce que j'y ai trouvé une présence, une question de l'être. Et c'était ça aussi. Cette question du lien entre l'aïkido et le théâtre, pour moi, c'est aussi la question de l'être, d'être sur le moment, d'être dans la présence, dans l'instant présent.
Et est-ce que vous connaissiez déjà l'aïkido avant de participer à ce projet, ou est-ce que vous aviez déjà fait, je sais pas, du judo, un autre art martial, je sais pas. Est-ce que vous aviez déjà des bases?
Une fois, j'ai fait le cours de karaté de début d'année gratuit. c'était génial.
Et le théâtre, est-ce que vous aviez déjà eu accès justement à pas forcément de la formation, mais peut-être à aller voir des pièces de théâtre ou des choses comme ça?
Ah ouais, moi très peu de pièces de théâtre, très peu de pièces de théâtre. Mais le spectacle vivant, oui, par contre. Le spectacle de rue, les choses comme ça. Surtout à Brest, quand on avait les Jeudis du Port, c'était quelque chose quand même. C'était un peu tout le temps bien, quoi. Mais alors, pareil, l'aïkido, moi, je connaissais deux noms. Enfin, comme on connaît plein d'arts martiaux. Puis on connaît deux noms et tout ça. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, je sais pas, peut-être que je réponds, là, je divague un peu des questions, mais il y a un truc que j'ai trouvé très intéressant dans l'aïkido. Enfin, surtout en regardant Tanguy Le Vourge, justement, Sensei Tanguy, c'est qu'il y a un. Quand on le regarde, il a le truc d'un chat. Et vous savez, c'est l'histoire des chats qui sont très forts, ils sont capables de sauter sur des murs à 2-3 mètres de haut, et du coup, ils foutent rien de la journée. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent le faire. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose comme ça dans l'apprentissage de tous les trucs qu'on a fait qui se rapprochent de l'aïkido, du truc à se renforcer pour pouvoir dire bah oui, c'est bon, on peut le faire. Autant laisser couler, quoi. Voilà.
Ok, moi j'ai fait un peu de judo quand j'étais petite, parce que mon grand frère en faisait, du coup je trouvais ça vachement classe, et je voulais faire comme mon grand frère, mais c'était pas trop mon truc. Est-ce qu'il y avait un côté... c'est un combat en fait, et moi j'aime pas les combats, mais par contre dans le côté... Dans le côté effectivement de la discipline, comme disait Ida tout à l'heure, on a des règles, il y a du respect aussi beaucoup. J'avais trouvé ça passionnant pour ça. Et sinon, non, autrement, j'ai pas fait d'autres arts martiaux. Sinon, en théâtre, j'en avais fait quand j'étais petite. J'en ai fait 2 ans, de mes 8 à mes 10 ans. Et j'ai regardé pas mal de spectacles. J'ai grandi dans une famille où culturellement assez riche, donc on allait parfois au théâtre pour regarder des spectacles. Et puis sinon, il y avait les spectacles de rue, c'était assez impressionnant, les gens qui vont comme ça dans la rue et qui osent se lancer devant un public qui est même pas forcément prévenu qu'il va y avoir quelque chose, enfin voilà.
Et du coup, ce défi d'éloquence, c'est un défi, comme son nom l'indique, et c'est pas un concours, vous l'avez très bien dit au début. Du coup, les jeunes qui participent sont pas en concurrence les uns avec les autres, c'est un travail collectif. Est-ce que ça veut dire que vous proposez une seule et même pièce, ou est-ce qu'il y a plusieurs groupes qui proposent plusieurs pièces, plusieurs spectacles?
Ah oui, alors ça c'est intéressant, parce que ce qu'il faut quand même dire, c'est que... D'abord, appelons ça une pièce, d'accord, mais cette pièce, c'est eux qui l'ont écrite. C'est-à-dire que tous les textes qui sont dans ce spectacle viennent d'eux. C'est leur écriture. Au départ, au tout départ, où j'ai réfléchi à ce projet et que je l'ai écrit, je pensais amener des textes extérieurs, des textes de théâtre. Et en fait, je ne l'ai pas fait. Et j'en suis très heureuse d'ailleurs, je trouve ça très bien. Et tout repose sur leur écriture. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le maçon, en fait. J'ai fait l'architecte, quoi. C'est-à-dire, j'ai architecturé tout ça. La mise en scène, c'est ça, finalement. Hein. Je l'ai mise en forme, je l'ai structuré. Et je leur ai proposé des situations. Et voilà. Et encore, ils sont très proposants aussi à ce niveau-là. Justement, grâce au travail que fait Tanguy Le Vourche avec eux. Ils ont acquis une espèce de fluidité, comme ça, de souplesse aussi dans leurs propositions. Et donc ces textes, ils viennent d'eux, c'est eux qui l'ont écrit. Moi, restructurer quelques petites choses dans les textes, mais c'est normal. Enfin, il y a voilà, Exone par exemple qui n'est pas là et qui est un grand gaillard de 1m95, kosovar et qui écrit et qui parle le français, mais il écrit avec des fautes et c'est tout à fait normal. Et les phrases sont bon, voilà. Donc on a retravaillé ensemble son texte, mais tout ça, ça fait partie du jeu et du travail. Et mais voilà, c'est important de signaler ça, de souligner ça plus exactement, c'est pas signaler. Et là, je réponds à votre question, je sais plus, je me suis perdue en cours de route.
Moi, ce que je voulais savoir surtout, c'est est-ce qu'il y a qu'une seule pièce, une seule pièce avec tous les jeunes, ou est-ce qu'il y en a plusieurs ?
Ah non, ils sont tous sur le plateau. Tous, okay. Pendant une heure, ouais, une grosse heure maintenant, je pense que ça va grossir un peu. Ils sont tous là, ils sont tous présents, ils ont tous quelque chose à faire avec les autres. Ils sont pas, c'est pas des moments, c'est pas des one man show, quoi. C'est à coller les uns aux autres, pas du tout. Il y a vraiment de l'écoute, du langage. On se parle, on échange, on s'écoute, on se tait. Il y a du silence. Et c'est cette construction-là. C'est vraiment cette construction-là.
Et alors, le but de ce défi d'éloquence, c'est de faire s'exprimer les jeunes sur leurs émotions, leur vécu, leur univers, qui sont tous différents. Mais alors, comment l'expression individuelle, elle se trouve, elle s'exprime justement dans ce groupe qui est aussi hétérogène.
Comment elle devient collective, c'est ça que vous voulez me demander?
Plutôt, comment l'expression individuelle s'exprime dans un collectif, dans un groupe?
Bah, je sais pas, ils peuvent répondre, mais ouais. Répondez. Vous voulez répondre?
Moi, je veux bien proposer. Vas-y. Un élément de réponse peut-être, c'est qu'elle s'exprime dans le fait justement qu'on ait fait groupe, dans le fait que chacun s'écoutait avec un certain respect. Et parce que quand on rencontre comme ça des gens qui se retrouvent sur scène, on sait pas comment ça se fait qu'on s'est retrouvés ensemble, mais on est ensemble et les gens parlent de sujets qui les bouleversent. C'est comme le truc où quand on va se promener, on rencontre quelqu'un qui commence à parler de ses doutes, et puis on se dit, ah bah là, on commence à connaître la personne, on commence à comprendre comment elle réagit, comment être avec. Et forcément qu'on peut faire groupe, et je commence à me perdre aussi, qu'on peut faire groupe aussi, justement dans ce sens-là, dans le sens où on sait tous, enfin, on s'est un peu tous mis à nu, et c'est très beau parce que justement c'est là où on fait groupe, je pense, quand on a un groupe d'individualité, et c'est à ce moment-là qu'on fait un vrai groupe. Sinon on est des soviétiques, quoi. Enfin, non, mais enfin oui, ou autre, quoi. Enfin, on s'en fout. Mais c'est justement quand on a un rassemblement d'individualité, quoi. Ouais, Corée du Nord. Oui, il y en a plein d'autres. La Chine, on peut. Vous exportez pas en Chine, cher Adjoli.
Pas encore.
Non, mais il dit une chose très importante, Gwendal, et je suis heureuse que ça soit lui qui le dise. Et je sais que Diane, ils le savent tous, quoi. C'est qu'en fait, il y a eu effectivement une mise à nu. Ils ont été très courageux, extrêmement courageux, parce que le démarrage de tout ça, pour eux, ça a été de parler de choses extrêmement intimes, qui touchent en général à leur famille, à leurs parents, à eux-mêmes. Et avec cette matière-là, ils se sont écoutés, se sont entendus et se sont connus et reconnus. Donc c'est une démarche puissante, vraiment puissante. Et c'est pour ça qu'il est hors de question que moi j'intervienne de quelque manière que ce soit, en tout cas au niveau de l'écriture. Et ça, c'est vraiment ce langage-là, il est fondamental, quoi, dans le travail qu'on a fait. Ce langage qui rencontre le langage du corps, justement.
Mais justement, c'est pas une mise à nu comme, c'est des choses qui sont terriblement vraies et terriblement réelles qui ont été dites. Et justement, c'est en ça aussi que on accroche sur les trucs, c'est que on se renforce beaucoup après une expérience comme ça. On sort tous très très fort pour les questions de, parce qu'on est tous beaucoup jugés dans nos vies. Et sortir d'un groupe comme ça où il y a tout ça qui s'est passé, où on a pu dire plein de trucs et tout ça, on sort tous très fort en se disant bon, eux m'ont pas jugé, c'est que ça doit être bon. Et puis au final, s'il y a des gens qui me jugent, peut-être que c'est eux qui se trompent. Voilà.
Et ça crée de l'universel.
Ça crée du collectif et ça crée de l'univers.
Voilà, et parce qu'on propose un projet d'avenir pour avancer. Voilà. Ida va se présenter d'ailleurs aux prochaines élections,
bien
je crois.
Bien sûr, évidemment.
Est-ce que vous avez envisagé d'autres formes d'expression artistique, autres que l'écriture, le théâtre, l'aïkido, la parole de la voix et du corps? Est-ce que vous avez pensé à d'autres formes d'expression artistique?
Oui, d'ailleurs, il y en a. Il faut le dire. Nous avons un merveilleux technicien dans la personne de Lionel Jaffrez, qui est le directeur artistique du Théâtre du Grain, qui s'occupe de la vidéo. Parce qu'il y a de la vidéo, c'est-à-dire que non seulement on les voit sur scène, mais on les voit en images, en vidéo, et ça crée un écart comme ça entre cette réalité de leur présence sur scène et cette autre réalité de eux en images dans d'autres espaces, à d'autres moments. Et il y a également du son. Un peu de son, très peu. Là, pour l'instant, je n'ai pas voulu en mettre trop, mais... à partir du week-end prochain, nous allons avoir un guitariste, un des jeunes qui s'appelle Paul et qui est musicien et qui fait de la guitare sèche et de la guitare électrique. Et donc, je lui ai proposé de venir travailler ça sur le plateau à partir du week-end prochain.
Et alors, Diane et Gwendal, comment vous exprimez dans ce projet, dans cette pièce, qu'on peut appeler ça une pièce, quel est votre... Comment vous y apportez votre petit grain, vous ? Quel est votre...
Il faut lire les textes.
Oui, si vous voulez, vous pouvez lire le texte. Je crois que vous avez ramené un texte.
Des bouts de texte, on va vous lire quelques bouts de texte.
Ouais, allez-y.
Je t'en prie, Diane.
Alors, effectivement, bon, j'ai beaucoup de textes. Hein. Moi, j'écris depuis que je sais écrire. Donc, et puis là, bon, j'ai rempli un carnet entier depuis le début d'Éloquence. Mais j'ai choisi un texte qui s'appelle « Lien et équilibre ». Pour avoir ce qu'on veut, il faut se battre. On n'a pas le choix. Je déteste ces mots. En même temps, c'est vrai, mais je ne sais pas, j'ai toujours trouvé le bon chemin en arrêtant de me battre, de survivre. Le bon chemin, c'est quand tu arrêtes de survivre, quand tu vis enfin. Se battre, c'est un peu évoluer dans un monde parsemé de murs. J'aime créer les liens, traverser les murs en créant les liens. En sortant de chez moi pour cueillir les émotions, l'amour, la joie, les miennes, les tiennes, les leurs. Comme pour peindre un nouveau tableau avec. La vie te met à terre comme elle te fait planer, on ne peut le nier. Mon tout, c'est de faire le lien entre ma souffrance et la sienne et mon bonheur, entre les émotions, les gens, les lieux, les mots, les cœurs, les corps. Comme construire un pont pour trouver l'équilibre, là où il n'y en a pas encore. Pour vivre, je n'oublie pas ni les pleurs, ni les cris, ni la peur, ni la stupeur. Je crée juste des liens pour inventer l'équilibre. Comme un rayon de soleil qui traverse la grisaille, pour s'accrocher à un sourire, un regard, à un autre que soi.
Merci.
De rien.
Est-ce que tu...
Ouais. Oui, bah, alors du coup, bah, moi j'ai un texte qui n'est pas encore exactement écrit. Donc, je vais vous lire un petit texte qu'on a écrit tous ensemble.
C'est le texte choral.
Voilà, un texte choral, donc, qui va être dit en choral, du coup. On aurait pu le lire en choral, ça aurait
été... Tu vas peut-être pas lire tout.
Je vais peut-être pas lire tout, parce que ça ferait beaucoup.
Non, c'est pas ça, mais il faut laisser un peu de...
Il faut laisser un petit peu de suspens. Très publicitaire, ça c'est magnifique. Vous reconnaîtrez, ouais, enfin, on s'en fout. Monsieur le Président, on vous écrit pas de lettres, on veut pas que vos grouillots s'entêtent à ne pas les lire peut-être. Il est 15h26 et on est là, on ne demande rien, on ne vous demande rien. Non, excusez-moi. On ne demande rien, on ne nous donne rien. Vos rêves de gosse, vous les avez depuis longtemps laissés tomber. Ou alors, vous rêviez d'être président, mon président. Vous rêvez d'être seigneur, mon seigneur. Mon seigneur, il est l'or de se réveiller. On est là, avec notre colère, et on sait pas quoi en faire. On la ravale, ça fait des nœuds à l'intérieur. On est là avec nos désirs inassouvis, et on est là avec nos désirs à assouvir. Monsieur le président, on ne vous demande pas de vous en souvenir. On nous répète à l'envi, sans argent, pas d'études, sans diplôme, pas de boulot, sans études, sans boulot, pas de place dans la société, pas de vie sociale sans fric. Si tu sais rien faire d'autre, va-t'en casser des briques. Je peux peut-être m'arrêter là, pour laisser un peu de hype.
Merci beaucoup, Gwendal.
Mais merci à toi, Thomas. Je sais pas si c'est fini, je dis merci, mais...
Alors moi j'ai juste une petite dernière question à vous poser avant qu'on s'arrête là. Est-ce que cette expérience vous a donné envie de continuer à participer à ce type de dispositif ou alors à vous engager dans le théâtre, dans des troupes ou des associations autour du théâtre ou alors dans des clubs d'aïkido peut-être?
Moi ça m'a envie de m'engager dans des troupes mais militaires. Non, c'est des conneries. T'as sûrement une réponse.
Ouais, tout à fait, j'ai une réponse. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur le maquis, qui est un lieu du coup où travaille Ida, et où il y a beaucoup de...
Oui, le théâtre du grain, en fait.
Ouais, voilà, le théâtre du grain, où il y a beaucoup de projets, où on intègre beaucoup les habitants du quartier de Saint-Pierre, mais aussi D'ailleurs. Finalement, tout le monde peut venir, voilà. Moi, j'habite à l'autre bout, mais bon, c'est avec plaisir que je fais le trajet. Et il y a eu une collecte de témoignages sur le Covid, un témoignage artistique, il y a eu un débat projection, il y a d'autres projets, il y a plein de choses. Et ouais, ça m'a donné envie de noter tout ça, tous ces projets qu'il y a en cours et de rentrer dedans autant que possible. Voilà.
Mais c'est vrai, alors pour continuer sur le maquis, juste parce que moi je suis passé ces derniers temps au maquis, et la première parce que je monte des projets, enfin on s'en fout, c'est autre chose, mais en gros je me suis retrouvé à arriver au maquis, et c'est vrai qu'on reste dans le truc comme ça, la première chose que je me suis dit en ressortant, c'est mais dis donc, est-ce que je me demanderais pas ce qu'ils me proposent un emploi Alors voilà, je cale ça comme ça, j'en ai pas parlé encore, mais parce que c'est des endroits où on se dit tout peut arriver, et ça c'est super d'avoir des endroits comme ça qui existent. On a l'impression que c'est des trucs d'avant, mais non, c'est la vie n'est pas encore foutue.
Oui, mais c'est important qu'il parle du maquis parce que ça fait partie aussi des partenaires, évidemment, bien évidemment. Théâtre du Grain et du maquis. Donc venez au maquis, prenez le maquis, soyez maquisards. Il y a plein de choses à vivre là-bas.
C'est plus simple qu'en 40.
Alors, pour finir, je rappelle que vous faites des représentations du coup le samedi 19 juin à 18h à l'Auditorium des Capucins. Puis le vendredi 2 juillet à 18h au centre social Horizon. Pour réserver vos places, il vous suffit de contacter le Théâtre du Grain par téléphone au 06 80 19 67 76 ou par mail à contact@théâtredugrain.com. Merci beaucoup Ida Ertu, Diane Pallier et Gwendal Lalancette d'être venus ce soir pour répondre à nos questions.
On n'a pas pu nommer tout le monde, mais
oui, malheureusement. Ah.
Coucou Exone, qui c'est qui encore?
Coucou Lucia.
Tu connais plus tes camarades?
Coucou Loïc Paul Loïc,
Hicham
et même ceux qui sont partis aussi.
Ouais.
Eric et puis Moussa et puis ah non mais attends parce que là on va en oublier, on va se faire engueuler du coup. Vaut mieux pas faire ça. Marin
et Moussa
aussi,
est pas Marin, parti. Marin. Oui.
Bisous Marin.
Voilà.
Et puis bisous aux gens qui vont écouter. C'était très C'est gentil.
Eh ben, merci beaucoup.
Un peu de
sur
temps
ces,
revoir,
sur ces beaux mots de la fin.
Non, mais les gens ont merci. Du travail, il faut être gentil.
Merci bon beaucoup courage. Et bonne soirée.
Bonne soirée.
C'est vous qui le dites, reviens dans un instant après Jamming de l'album B is for Bob de Bob Marley.
You like jamming too.
Vous êtes toujours dans C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale et citoyenne de Radio U sur le 101.1 FM. Tout de suite, je vous laisse écouter l'interview de Gabriel Toulek, professeur de philosophie au lycée Saint-Sébastien de Landerneau, accompagné de trois de ses élèves de la spécialité Humanité, Littérature et Philosophie, qui sont Margot, Chloé et Marie, qu'on a pu joindre par téléphone hier dans l'après-midi pour parler de leur lauréat régional pour leur BD sur la biographie de Gillette Kolinka, présentée lors du concours Bulle de mémoire.
Alors, bonsoir Gabriel Toulek, vous êtes enseignant de philosophie au lycée Saint-Sébastien de Landerneau.
Oui.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je crois que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné d'élèves de la classe de première spécialité Humanité, Littérature et Philosophie.
Oui.
Bonsoir Margot, Chloé et Marie.
Bonsoir.
Vous nous appelez ce soir pour parler de ces élèves justement qui sont lauréats régionaux du concours Bulle de mémoire pour leur BD biographique de Ginette Kolinka. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est ce concours ?
Alors le concours il consiste à retracer en fait l'histoire d'une femme. Donc on a choisi Ginette Kolinka. Qui a 96 ans et qui témoigne partout en France pour retracer son histoire et la vie qu'elle a vécue dans les camps de concentration finalement. Et on a choisi du coup de réaliser 6 planches afin de retracer les moments de sa vie qui l'ont le plus marqué et les plus importants.
Et quel est le but du concours Bulle de mémoire ? Qu'est-ce que ça implique ?
Le but, c'est de montrer qu'il ne faut pas revivre ces moments, car finalement, c'est des moments très sombres du passé. Voilà, et donc Ginette Kolinka fait aussi des rencontres dans les établissements pour justement montrer l'horreur et nous informer de ne pas refaire.
Gabriel Toulek, vous êtes prof de philo, on le rappelle, au lycée Saint-Sébastien de Landerneau. Et vous avez encadré les élèves en binôme avec Virginie Leduf tout au long de ce projet. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce que c'est la spécialité humanité, littérature et philosophie ?
Alors, la spécialité HLP donc, est une spécialité qui rassemble un professeur de philosophie et un professeur de littérature. Donc, 2 heures par semaine pour chacun en première et 3 heures en terminale. Donc, c'est une option au même titre que l'on pourrait faire mathématiques ou physique ou SVT. Et donc, c'est une option à dominante littéraire le but, c'est de ne pas cloisonner, je dirais, la littérature et la philosophie, chacune de ces deux matières de son côté, mais au contraire de les relier et d'essayer de voir les points d'achoppement qu'il y aurait entre un questionnement philosophique sur, notamment ici, sur les pouvoirs de la parole dans le témoignage, et donc un axe plus littéraire, par exemple sur la biographie ou autre, et donc d'amener les élèves à réfléchir et en même temps à se montrer capable de s'exprimer à l'oral, de développer une pensée avec à la fois donc des qualités en français et aussi des qualités de questionnement.
Et pourquoi vous avez choisi de faire participer les élèves à la création d'une BD ?
Alors c'est un peu le hasard en fait, je dirais, parce que ma collègue donc est tombée sur une annonce et elle s'est dit que une bande dessinée permettait à la fois un travail d'écriture et un travail de composition. Donc on s'est concerté, on s'est dit qu'on allait tenter notre chance. Les élèves ont bien apprécié l'idée et puis finalement ils se sont mis très vite dans le projet et ça les a emballés, je dirais. Donc on a continué, on est allé au bout et on a fini par présenter quelque chose.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez été mis en relation avec Ginette Colinca ?
Alors en fait, Ginette Colinca et Virginie Leduc se connaissent déjà depuis quelques années, puisqu'elles ont déjà travaillé ensemble lors de rencontres entre Ginette Colinca, qui est donc l'une des dernières survivantes d'Auschwitz, et donc des élèves d'autres établissements et d'une autre, hein, notamment l'année dernière. Elle avait prévu une rencontre avec Ginette et qui a pu avoir lieu avant le confinement. Et donc, elle a voulu refaire la même chose. Donc, elles sont entrées en contact très facilement puisqu'elles se connaissent. Et donc, ce qui est quand même remarquable, c'est que Ginette Colinca, malgré donc la période qui était difficile, a insisté pour venir quand même en respectant un protocole sanitaire. Et donc, ça s'est fait... Hein, avec un protocole assez strict, puisqu'il n'y avait que quelques élèves présents dans la salle de théâtre, et le reste était en visio dans d'autres salles, ainsi que dans un autre établissement à l'Andivisio. Et donc ça a pu se faire, moyennant tout ce mécanisme.
Alors, je suppose que certains sont occupés de certains aspects en particulier de la création de la BD. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez construit justement... le projet et la création de cette BD?
Alors du coup, c'était on est donc 18 dans la classe, on a fait des groupes de 3 et on choisissait un thème qui nous a le plus marqué dans le témoignage de Ginette Colinca pour représenter donc les événements marquants de sa vie. Et donc le travail d'écriture et de création s'est fait donc par groupe.
Et parmi vous trois, qui est-ce que vous pouvez me dire qui a participé à quoi ?
Donc on n'était pas tous les trois dans le même groupe, mais moi j'ai participé à la création de la planche sur l'histoire de la robe de Ginette Colinca. Et donc moi j'ai dessiné. Ensuite mes coéquipières ont participé à faire donc la création du texte et l'imagination de la planche, et ainsi que l'intégration des QR codes.
Alors moi, j'ai décidé de travailler avec mon groupe sur le thème de l'amorce du wagon, parce que c'est un sujet qui est assez particulier et anodin. Donc en fait, Ginette nous a témoigné que lorsqu'elle voyageait dans le train, elle a pris contre elle finalement la morte du wagon pour obtenir finalement sa ration. Et ça montre vraiment que bah, face à cette situation, il y a ce côté individualiste qui ressort parce que bah, elle peut pas faire autrement. Et finalement, elle n'a plus d'émotion non plus parce que bah, avec ce qui lui arrive, elle doit encaisser et survivre. Donc voilà, nous aussi on a intégré des QR codes pour par exemple reprendre le bruit du wagon ou encore
apporter le témoignage de Ginette dans nos planches de BD.
Moi et mon groupe, nous avons choisi de travailler sur le retour de Ginette en France, dans sa famille, où elle revoit sa mère, d'ailleurs, qui ne la reconnaît même pas. Et donc moi, je me suis occupée de l'écriture et mes deux autres coéquipières sur les dessins. Au QR code, on a choisi de mettre un son du train pour montrer son retour et aussi un passage de Ginette qui explique pendant une conférence son retour justement. Et comme dans la totalité de la bande dessinée, on a décidé de choisir la couleur noire pour mettre en évidence la sombre, l'aspect sombre, oui, de l'événement, de l'atmosphère.
Est-ce que vous avez été aidé par des professionnels de la BD pour construire votre projet ?
Alors non, la création des BD a entièrement été faite par le groupe du coup de la classe. Et nous sommes aidés de Book Creator, un logiciel pour avoir un peu la disposition des vignettes pour une BD. Mais c'est le travail entier d'élèves en fait. Et on a réalisé du coup les dessins, certains avec du calque et avec des matériaux très simples. Comme les crayons de couleur, le feutre ou encore le stylo bic. Et il y avait aussi des élèves qui avaient des talents pour dessiner et qui nous ont permis du coup de faire une page de couverture présentant Ginette en train de témoigner.
Et finalement, vous venez ce soir pour nous parler de votre lauréat. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce lauréat régional ?
Ça représente un certain aboutissement finalement par rapport à ce projet. Il me semblait important de pouvoir marquer le coup et surtout de garder un souvenir de la venue de Ginette pour marquer tous ces événements et finalement que cela, ça ne se reproduise pas et qu'on devienne passeur d'histoire comme Ginette l'aurait voulu.
Et quelle est votre implication dans l'avancée de ce projet avec Virginie Leduf, Gabriel Toulec ?
Alors, notre travail à nous a été surtout de les encadrer pendant leur projet, parce qu'ils ont fait preuve quand même d'une assez grande autonomie quand il s'agissait de trouver des idées, que mettre, quel dessin on va faire ici, quelle continuité. Donc pour cette partie-là, en tout cas, qui concerne le concours, on a surtout proposé. Ensuite, on a élaboré un cadre. Virginie Leduf, par exemple, a cadré qui allaient être les groupes, qu'est-ce que l'on allait faire comme représentation. Enfin, elle a mis en place un cadre de base et ensuite on s'est basé là-dessus sur plusieurs séances pour reprendre un travail qui a été laissé en grande autonomie tout de même, même si ensuite on discutait avec les différents groupes. C'est quand même quelque chose qui est d'abord un projet des élèves et mené par les élèves. Hein, sinon, notre encadrement, je dirais, il était en amont, avant la venue de Ginette, et ensuite dans le cadre donc des cours en fait et de ce que l'on pouvait intégrer au niveau des pouvoirs de la parole, des représentations du monde, et même je pense l'année prochaine en terminale en HLP il y a un domaine qui s'appelle violence et histoire, et je pense que l'année prochaine en terminale on pourra reprendre ce qui a été fait et le réinvestir dans un nouveau cadre. Notamment parlant de Primo Levi, si c'est un homme, c'est déjà quelque chose qui se construit.
Pour finir, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce qu'il y a une anecdote que Ginette Kolinka vous a racontée qui vous a particulièrement marqué ?
Alors du coup, pour revenir à mon travail du coup sur la robe, c'est le passage qui m'a le plus marqué. En fait, comme vous le savez, l'atrocité des camps est vraiment horrible. Et donc, l'histoire, elle a rencontré Simone Veil au camp et une capot qui était donc dans le camp est tombée amoureuse de Simone Veil et donc lui a offert deux robes ou plus, on n'en est pas sûr, mais au moins deux robes parce qu'elle trouvait qu'elle était trop belle pour être habillée dans des vêtements souillés et traitée comme une animal. Et Ginette Colenca a donc été en relation avec Simone Veil et pour lui donner de l'espoir, lui a aussi offert une robe. Et donc elle explique que c'est vraiment cette robe qui lui a permis de survivre car ça lui a redonné une certaine dignité et une féminité.
Merci beaucoup de nous avoir appelés ce soir et pour nous parler de ce beau projet. Est-ce que ça sera disponible quelque part?
Alors pour l'instant on n'a pas le droit de la diffuser parce que on attend les résultats pour lauréat national, mais je pense que ce sera possible de vous l'envoyer ensuite.
Eh bien merci beaucoup et puis bonne soirée.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Ce soir, nous avons eu la chance d'accueillir Hilda Hertu, Diane Palier et Gwendal Lalancette pour nous parler de la troisième édition du Défi Éloquence. Toutes les infos sont à retrouver sur le site du Théâtre du Grain. Nous avons également pu écouter l'interview de Gabriel Toulek, professeur de philosophie au lycée Saint-Sébastien de Landerneau, et trois de ses élèves lauréats régionaux du concours Bulle de mémoire. C'est vous qui le dites, c'est fini pour aujourd'hui, mais restez sur Radio U, car à 19h, vous pourrez retrouver le Lab U, et à 20h, une émission de Rock et Boomer en direct, en compagnie de Loïc. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine sur le 101.1 FM. Bonne soirée à vous.